Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes sur Radio Orient, il est 13h, le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, la vigilance est à son maximum pour faire face à ce nouvel épisode de canicule en France. Le gouvernement déclenche un plan hors sec chaleur extrême. Israël menace de frapper l'Iran une troisième fois si nécessaire, tandis que les récents échanges de frappes entre Washington et Téhéran fragilisent le cessez-le-feu. Mondial 2026, la France dans le dernier carré. Les Bleus ont battu le Maroc hier 2-0. Ils affronteront le vainqueur du match Espagne-Belgique en demi-finale. Bonjour, plusieurs centaines de personnes ont été évacuées par précaution et les autorités maintiennent une vigilance maximale face au risque de nouvelles reprises. La troisième canicule de l'été en France s'intensifie avec 9 départements en vigilance rouge ce vendredi et 24 à partir de demain. Le gouvernement déclenche un plan hors sec, chaleur extrême, pour protéger les personnes les plus vulnérables. Une première dans les départements placés en vigilance rouge. Le dispositif prévoit notamment l'ouverture de centres de rafraîchissement pour les personnes les plus vulnérables, tandis que 24 départements seront concernés par la vigilance rouge samedi. Les fortes chaleurs alimentent également les incendies, toujours actifs dans plusieurs régions, notamment dans la Drôme, où 3700 hectares ont déjà brûlé. Plus de 570 pompiers restent mobilisés alors que le feu pourrait regagner en intensité avec la hausse des températures. Et les fortes chaleurs qui persistent mettent l'organisme à rude épreuve, en particulier chez les personnes les plus fragiles. Si les autorités multiplient les messages de prévention, c'est aussi pour éviter une saturation des services d'urgence. Gérald Kierzek, médecin urgentiste, rappelle les bons réflexes à adopter face à la canicule.
Il y a un plan canicule maintenant qui est bien rodé en France avant d'arriver à l'hôpital et j'allais dire pour éviter d'arriver à l'hôpital et aux urgences. Moi, je suis médecin urgentiste, on a vécu la canicule de 2003, on vit à chaque fois des épisodes de personnes âgées, fragiles, isolées qui arrivent d'ailleurs à retardement quelques jours après le début de la canicule et toutes les mesures gouvernementales, notamment de travailler avec les mairies, d'hydratation, de messages de prévention sont importantes pour éviter l'arrivée aux urgences. Et je crois qu'il faut quand même qu'on rappelle tous qu'il faut s'hydrater. Ça, on commence à tous bien connaître, 2 litres par jour, 2 litres et demi, pas plus. Diminuer les activités, ça c'est vraiment le message fondamental. Pas que pour les plus fragiles, c'est vrai que le plan gouvernemental, il est très orienté sur les plus âgés et les plus fragiles, mais même pour les jeunes, on ne fait pas de jogging quand il fait ce temps-là. On ralentit les activités, un peu comme font les pays où il fait très chaud et où l'organisme s'habitue. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'éviter à tout prix les urgences. Et si vous avez des symptômes, bah là, il faut appeler le 15 parce que malheureusement, il n'y a pas le choix.
Et on l'entend, hein, toutes les générations restent vulnérables face à ces très fortes chaleurs.
En fait, les premiers cas graves, coups de chaleur, hyperthermie, sont plutôt chez des jeunes ou des travailleurs qui ne se méfient pas, qui pensent que leur corps va résister et qui continuent à faire du sport sous la chaleur, ou des travailleurs qui n'ont pas adapté leur rythme de travail. Ça, c'est la première phase de la canicule. Et la deuxième phase de la canicule, c'est des personnes âgées où le corps est en stress thermique et n'arrive plus à s'adapter, n'arrive plus avec un cœur qui a du mal à pomper, avec des médicaments qui fragilisent, je pense aux médicaments psychotropes hein, pour le cerveau, les antidépresseurs ou encore des médicaments pour le cœur. Et là, au bout de quelques jours, l'organisme s'épuise.
Docteur Gérald Kierzek, vous êtes médecin urgentiste. Les hôpitaux, aujourd'hui, font face ?
Les hôpitaux, aujourd'hui, sont sous tension en permanence, 365 jours par an. Et donc, le problème, c'est que la moindre goutte d'eau, le moindre événement à impact sanitaire, alors là, on parle de la canicule, on en parlait aussi il y a 15 jours, on en parlera encore tout l'été, parce qu'on n'est qu'au début de l'été, mais l'hiver, c'est avec la grippe, tout événement qui a un impact sanitaire, en fait, fait déborder l'hôpital qui est déjà plein.
Gérald Kierzek, médecin urgentiste, au micro de François-Xavier de Calonne. Ce drame en Espagne, conséquence des fortes chaleurs, au moins 11 personnes ont péri dans un violent incendie de forêt près d'Almeria, dans le sud du pays, où plusieurs victimes ont été retrouvées dans leur véhicule. Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues. Le feu attisé par la canicule a déjà ravagé plus de 3100 hectares et mobilise d'importants moyens de secours. L'actualité au Moyen-Orient, Israël se dit prête à frapper l'Iran une troisième fois si nécessaire. Son ministre de la Défense, Israël Katz, affirme que l'armée reste en état d'alerte alors que les récents échanges de frappes entre Washington et Téhéran font craindre une remise en cause du cessez-le-feu. Dans ce contexte, Donald Trump s'est entretenu avec Benjamin Netanyahu pour évoquer les derniers mouvements militaires américains dans le Golfe et réaffirmer la coordination entre les États-Unis et Israël. Selon le Wall Street Journal, les services israéliens auraient également transmis à Washington des informations faisant état d'un projet iranien visant à assassiner le président américain. Parallèlement, Ali Khamenei a été inhumé tôt ce vendredi à Mashhad, sa ville natale, après 6 jours de cérémonies funéraires en Iran et en Irak. Selon la télévision d'État iranienne, l'inhumation s'est déroulée au sanctuaire de l'imam Reza, en l'absence apparente de son fils et successeur Mojtaba Khamenei. Une délégation militaire américaine est attendue dans les prochains jours à Beyrouth pour superviser le début du retrait israélien de zones pilotes dans le sud du Liban, conformément à l'accord cadre conclu fin juin. Le déploiement progressif de l'armée libanaise doit accompagner ce retrait, tandis que les discussions entre le Liban et Israël sont prévues les 15 et 16 juillet à Rome. Les autorités syriennes annoncent l'arrestation des membres d'une cellule présentée comme affiliée au groupe État islamique après les 2 attentats à la bombe commis mardi à Damas pendant la visite d'Emmanuel Macron. Ces explosions qui ont fait 1 mort et 36 blessés près de l'hôtel où séjournait le président français n'ont pas empêché le maintien de la visite. Les autorités promettent de dévoiler prochainement l'identité et le rôle des suspects. L'ONU Femmes alerte sur les conséquences des coupes dans l'aide humanitaire. Au moins 1 million de femmes et de jeunes filles sont privées d'assistance depuis janvier 2025. L'agence onusienne prévient que de nombreuses organisations de femmes sont menacées de fermeture alors que les besoins humanitaires atteignent des niveaux records. Retour en France, Olivier Faure exclu de démissionner de la tête du Parti Socialiste après le rejet par les militants de sa proposition de primaire ouverte. Le premier secrétaire affirme qu'il dira le moment venu s'il est candidat à la primaire d'octobre, désormais réservée aux seuls adhérents du PS et de ses partenaires. L'INSEE confirme un net ralentissement de l'inflation en France à 1,8% sur un an en juin, après 2,4% en mai. Cette baisse s'explique principalement par le repli des prix de l'énergie, tandis que les prix à la consommation ont reculé de 0,3% sur un mois. La tapisserie de Bayeux est arrivée à Londres où elle sera exposée pendant 1 an au British Museum dans le cadre d'un prêt historique. Le premier hors de France, cette œuvre du XIe siècle transportée sous haute surveillance, sera présentée au public à partir du 10 septembre avant de regagner Bagneux en 2027. Le rêve continue pour les Bleus. L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Les Français retrouveront le vainqueur du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique pour tenter de décrocher une place en finale. Retour sur cette soirée et sur le beau parcours des Lions de l'Atlas. Le point mondial avec vous, Salma Dakhlaoui.
Oui, Nadia. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde. La rencontre s'est terminée sur un score de 2-0 face au Maroc. Les Bleus poursuivent ainsi leur route dans ce mondial 2026 et c'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score en deuxième période avant qu'Ousmane Dembélé ne vienne valider la qualification. Les hommes de Didier Deschamps n'ont désormais plus qu'un seul objectif, ajouter une étoile au maillot. Grâce à cette victoire, la France disputera sa demi-finale le 14 juillet, jour de la fête nationale, face au vainqueur du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique qui se joue ce soir à 21h heure française. En face, les Lions de l'Atlas quittent la compétition avec les honneurs. Les hommes de Mohamed Ouahbi confirment qu'ils font désormais partie des grandes nations du football mondial. Demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022, les Marocains sont devenus cette année la première sélection africaine à atteindre 2 fois de suite les quarts de finale d'un mondial. Et malgré la défaite, le gardien Yacine Bounou a une nouvelle fois livré une prestation exceptionnelle. Auteur de plusieurs arrêts décisifs face aux attaquants français, il a longtemps maintenu les siens dans le match et et confirmer son statut de l'un des meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde. Le parcours des Lions de l'Atlas aura une nouvelle fois marqué les esprits. Malgré l'élimination, le Maroc quitte cette Coupe du Monde la tête haute et confirme son statut de référence du football africain. Et le Mondial 2026 continue avec encore deux autres quarts de finale qui doivent se jouer. Des matchs qui opposeront la Norvège à l'Angleterre demain avec un coup d'envoi à 23h, puis l'Argentine à la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin, toujours heure française. Les vainqueurs de ces deux rencontres se retrouveront donc dans la seconde demi-finale pour tenter de décrocher une place en finale qui, elle, se jouera le 19 juillet.
Merci Salma pour ces précisions. Et au-delà de cette élimination du Maroc, Salma, ce mondial restera peut-être comme un tournant pour le football africain. 10 équipes qualifiées au départ, des performances convaincantes et une compétitivité qui semble franchir un cap. Avant le tournoi, on parlait d'un mondial historique pour l'Afrique. Est-ce que ce statut est confirmé aujourd'hui? La réponse de Franck Orokoti, directeur d'Africa Top Sport au Togo.
C'est la première fois que l'Afrique présente 10 sélections et avec ces 10 sélections, nous avons connu une qualification historique avec 9 sélections sur les 10 pour le premier tour. Je crois que c'est une bonne chose pour l'Afrique. L'Afrique a présenté un bon visage et les sélections africaines ont affronté des grandes sélections européenne et les sélections sud-américaines, je crois que c'est une bonne chose pour l'Afrique.
Alors, le Maroc était le porte-étendard du football africain, le porte-drapeau. D'autres équipes ont également changé le regard sur le football africain.
Oui, effectivement. Lorsqu'on voit par exemple la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un vivier intéressant au niveau de la Côte d'Ivoire avec de jeunes joueurs, Ahmad Kone, Ahmad par exemple, qui évolue donc à Manchester United. Il y a également d'autres joueurs qui se sont montrés. Je crois que c'est une très bonne chose pour l'Afrique. Non seulement le Maroc, qu'on connaît si bien que ce n'est pas une surprise, parce que déjà en 2022, ils se sont qualifiés pour la première fois pour une sélection africaine en demi-finale de la Coupe du Monde. Et on savait que le Maroc allait bien représenter l'Afrique. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe qui est également dans l'ombre, comme la France. Et le Maroc est tombé. Je crois que c'est une bonne chose pour l'Afrique et pour ce que l'Afrique a présenté lors de ce mondial. Au-delà...
Quand vous dites une bonne chose pour l'Afrique, c'est le fait que le Maroc ait atteint ce stade. Le Maroc qui, bien entendu, fait partie des grandes nations du football mondial.
Oui, le Maroc fait partie aujourd'hui des grandes nations du football mondial. À voir déjà ce qu'il présente d'abord comme individualité, comme collectif. Je crois aujourd'hui que toutes les équipes, des grandes équipes mondiales, si elles veulent rencontrer le Maroc, elles doivent faire extrêmement attention.
Franck Orokoti, directeur d'Africa Top Sport au Togo, invité de François-Xavier de Calonne dans Grand Angle ce soir après le flash de 18h. Et suite au match France-Maroc hier, on a appris qu'une adolescente de 17 ans est morte dans le Nord après être tombée d'un camion sur lequel elle était montée pour célébrer la victoire de la France face au Maroc. Hormis cet accident, la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon a confirmé ce matin chez nos confrères de TF1 qu'il n'y a eu aucun incident majeur en marge du match entre la France et le Maroc. On l'écoute.
Ça s'est dans l'ensemble bien passé et le rôle de l'État, c'est de s'assurer qu'un événement festif reste un événement festif. Et tant mieux s'il n'y a pas de heurts, tant mieux s'il n'y a pas de débordements. Encore une fois, ça n'exclut pas de prévenir et donc c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait le ministre de l'Intérieur. Maintenant, voilà, je constate que les Français sont massivement unis autour de leur équipe, autour de cette Coupe du Monde, qu'ils suivent avec attention.
Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation et merci de nous suivre. Excellent appétit si vous êtes à table.